Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM comme chaque mercredi à 16h, c'est Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM www.campuslille.com. Lille Info, le rendez-vous de l'Université Lille et de ses partenaires sur les ondes. Cette semaine, c'est la fête de la science partout en France, à mon avis, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Florence Yéna, qui est chargée de la médiation scientifique à la commune de Lille-Nord-de-France, et avec M. Christian Foxa, qui est donc directeur du CERLA, le Centre d'études, recherches, laser et applications. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est un événement annuel qui se décline cette année de manière peut-être un peu différente, Florence Yéna.
Oui, donc cette année, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les établissements de recherche et d'enseignement supérieur participent tous. Et il y aura de grosses opérations qu'on appelle « Village des sciences ». Où chercheurs et doctorants vont présenter leurs travaux au public sur toutes les universités. Voilà.
Est-ce que dans ce domaine, l'union fait la force ?
Ah oui, oui.
Voilà, donc une opération d'envergure pour la région Nord-Pas-de-Calais.
Oui, tout à fait.
Et donc les universités dont vous parlez, on peut peut-être en citer quelques-unes.
Mm-hmm. En fait, donc il y aura un village des sciences qui accueille les trois universités lilloises à Lille 3. Mm-hmm. Un village des sciences à l'université d'Artois sur le site de Lens. Et un village à Valenciennes, sur le campus du Mont-Ouy, mais qui va également être sur plusieurs sites. Et l'ULCO, donc l'Université du Littoral, participe aussi à un village, mais qui sera, lui, au Palais de l'Univers.
Donc, Florence Yéna, vous êtes chargée de la médiation scientifique à la commu. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est la commu. C'est un mot un peu nouveau pour nous, mais on va en entendre parler, vraisemblablement.
Peut-être, j'espère. Donc, en fait, c'est l'ancien pôle de recherche d'enseignement supérieur qui, maintenant, s'appelle Communauté d'universités et d'établissements Lille-Nord-de-France.
Voilà, donc, qui regroupe.
Alors, en fait, le but, c'est de monter des projets communs avec les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, donc les 6 universités publiques, l'université catholique et des écoles d'ingénieurs.
Voilà, donc chaque projet peut être monté par 2, 3 ou 4 partenaires, pas forcément tout le monde en même
voilà,
temps.
Voilà, exactement.
Selon les spécialités, les disciplines, etc.
Tout à fait.
Très bien. Christian Foxa, donc vous êtes directeur du CERLA, donc le Centre d'études, recherche, laser et applications. Ce centre se situe où exactement ?
Alors, ce centre se situe sur le campus de l'Université Lille 1. C'est juste en face de la station de métro Cité Scientifique. Et en fait, il regroupe 4 laboratoires. C'est une plateforme technologique régionale. Parmi les 4 laboratoires, on a 3 laboratoires de l'Université Lille 1. Donc, le FLAM, physique des lasers, atomes et molécules. Le PC2A, physico-chimie des processus de combustion de l'atmosphère. Et le LASIR, laboratoire de spectrométrie infrarouge et Raman. Et un laboratoire de l'ULCO, de l'Université Littorale Côte d'Opale, qui est le LPCA, Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère.
– Voilà, donc on l'a dit, cette fête de la science prend une dimension tout à fait particulière en région. On peut peut-être signaler d'ailleurs que la semaine de la science a commencé, qu'il y a des rendez-vous tout au long de cette fin de semaine, demain, vendredi et même ce week-end. Donc on peut peut-être parler du rallye des sciences si vous voulez bien.
Oui, donc en fait le rallye des sciences est une opération qui regroupe une douzaine de partenaires sur la métropole lilloise. Et en fait les gens sont invités à parcourir un maximum de lieux différents. Donc il y aura des expositions, des soirées, des spectacles. Et ensuite ils peuvent tenter leur chance à un jeu qu'on leur propose sur internet à l'adresse rallye-des-sciences.fr.
Voilà, donc ce rallye se situe où exactement ?
En fait, il y a plein de lieux sur la métropole lilloise, ouais. Plutôt sur Lille et aussi deux sur Villeneuve-d'Ascq.
Est-ce qu'on peut participer uniquement sur Internet ?
Vous pouvez tenter votre chance.
Ouais.
Mais le but, c'est en fait que les publics se croisent et, mm-hmm. et aillent sur un maximum de lieux différents, étant donné que ça... ça regroupe des organismes vraiment divers, c'est pas uniquement les laboratoires de recherche, les universités, il y a aussi le Grand Sud, le musée d'histoire naturelle par exemple qui participent.
Comment s'est faite la communication sur les différents lieux dans lesquels les publics peuvent venir et en plus, ensuite, quels sont les publics justement qui peuvent participer ?
Alors, si vous voulez tout savoir sur ce qui va se passer en région, il vaut mieux aller dans ce cas-là sur le site national fêtedelascience.fr. Là, vous avez absolument tout ce qui se passe. Et c'est vraiment destiné à tous les publics, même des enfants. Il y a des animations pour de la primaire jusqu'à 77 ans ou plus.
Un village aussi, un village sur la métropole lilloise.
Voilà, donc là, ce qui est original, c'est que donc, dans ce village qui se déroulera à Lille 3, il va rassembler des chercheurs et doctorants de trois universités lilloises, plus d'autres partenaires, notamment l'Institut Pasteur de Lille. Et donc là, on va découvrir des disciplines qu'on a rarement l'occasion de voir, puisque en général, un village des sciences, c'est plutôt des sciences dures, on va dire, physique, chimie, maths. Et là, il y aura aussi de l'archéologie, de la psychologie, voilà, plein de choses qui se fait à Lille 3 et qui sont très intéressantes aussi.
Très bien. Lille 3 d'ailleurs qui est aussi partenaire de l'exposition actuelle sur l'Égypte, hein, une belle exposition aux Beaux-Arts.
Palais des Beaux-Arts. Mmh.
Là aussi il y a de la recherche en cours. Hein.
Oui.
Voilà. Donc dans le cadre de ces activités, de ces propositions, de ces parcours, il y a également le parcours scientifique de Lille 1, donc qui est organisé par
qui est organisé par l'Université Lille-1, ses chercheurs et enseignants-chercheurs. Ce parcours est composé de trois actions. Donc, celle qui est au CERLA, donc autour des lasers à application. Ensuite, une action autour des nanotechnologies. Et enfin, une action sur l'expérium, une visite de l'expérium qui regroupe des expériences de différents domaines.
Donc ces parcours, enfin ces propositions, c'est pour demain et vendredi, c'est ça hein ?
Oui.
Donc entre 9h et 17h, là vous avez invité a priori plutôt des scolaires, des classes hein ?
Oui, nos portes sont ouvertes à tout le monde, à un large public. Même pour les scolaires, on a des classes qui vont du CM2 jusqu'à la terminale. Donc on doit s'adresser à tout le monde.
Je suppose que l'idée c'est de favoriser le développement scientifique et aussi susciter des vocations.
Tout à fait. L'idée principale, je dirais, c'est de montrer aux jeunes et aux moins jeunes que les sciences dures, comme dit Florence, ne sont pas si dures que ça et qu'on peut, avoir des expériences amusantes, visuelles, illustratives sur des sujets de recherche de pointe. Et nos chercheurs feront bien sûr un effort pour expliquer avec des mots simples, avec des concepts simples, des choses qui sont parfois compliquées.
Donc les sciences dures, pas si dures que ça, mais plutôt rigoureuses quand même.
Tout à fait.
La rigueur scientifique, ce n'est pas un mythe, hein ?
Non, tout à fait. Dans nos domaines, on doit en effet être rigoureux, précis et vérifier bien les choses qu'on avance et qu'on affirme.
Alors c'est vrai qu'il y a le patrimoine de la connaissance dans vos domaines. Il y a toute cette histoire de la connaissance scientifique. Il y a comment on la transmet et puis aussi comment on cherche et comment on transmet ce qu'on cherche et ce qu'on trouve.
Tout à fait. C'est pour ça que, par exemple, dans notre action, on essaye d'avoir une approche graduelle en partant des principes simples, de l'historique aussi, de l'invention du laser, de l'innovation, et puis graduellement d'amener le public vers des sujets de recherche actuels où, effectivement, on manipule des concepts qui sont aux frontières de la connaissance, je dirais.
C'est vrai qu'il a aussi de grands équipements technologiques de pointe. C'est pas forcément ce qu'on va ouvrir au public.
Non, je pense que nos équipements, ceux qu'on va voir en laser et application en nanotechnologie sont tout à fait à la pointe. Ce ne sont peut-être pas de grands équipements qui nécessitent une opération beaucoup plus rigoureuse et pointue en termes d'accès du public.
C'est ça, oui.
Mais néanmoins, nous possédons, par exemple au CERLA, un parc tout à fait complet de sources laser et d'instruments de caractérisation du rayonnement électromagnétique. Donc le public pourra voir, bien sûr, certains exemples de ces équipements-là.
Comment ces équipements sont répartis entre les études, entre l'enseignement et la recherche? Ils sont dispatchés ou ce sont les mêmes qui servent?
Alors, il y a différents niveaux. Je dirais qu'au niveau des études de licence, les salles des travaux pratiques sont équipées avec leur équipement, leurs instruments propres. Plus on avance vers le master 2, vers la recherche, vers le doctorat, plus on va aller vers les laboratoires pour essayer de voir et d'utiliser des équipements qui sont assez uniques et coûteux. Et donc, on ne peut pas avoir multiplié pour un certain nombre de postes de travail.
Bon, et en plus, je suppose qu'il faut savoir s'en servir.
Tout à fait, mais c'est pour ça qu'on est là, pour transmettre ce savoir et pour apprendre nous-mêmes aussi avec le progrès technologique.
Voilà, donc pour revenir à Lille 1, jeudi et vendredi, donc demain après-demain de 9h à 17h, si les gens qui ne sont pas inscrits encore veulent le faire ou savoir ce qui se passe et venir peut-être comme ça à l'improviste, est-ce que c'est possible?
Tout à fait, nos portes sont ouvertes. D'ailleurs, notre action, ça s'appelle Journée Porte Ouverte du CERLA.
Bon, donc là, effectivement. Et le point de rendez-vous, ça se situe où?
Ça va être marqué, ça va être indiqué. Mmh. C'est déjà en train d'être mis en place. Donc, pour le CERLA, l'accès est très simple. C'est juste en face de la station de métro.
Cité scientifique,
professeur Gabière. Et pour l'Experium, c'est l'ancien bâtiment des thèses, donc c'est à côté du A3.
A3 étant le bâtiment administratif de l'université.
Oui, et pour les nanotechnologies, ça va être dans le bâtiment de l'IEMN.
Qui est ?
Qui est à côté de la station de métro 4 Cantons.
Voilà, bon, c'est bien diversifié, bien éclaté. Les gens peuvent en même temps visiter le territoire de l'Université Lille. Hein.
Tout à fait, c'est le but aussi de faire au pré-universitaire, découvrir l'université et de les faire venir vers l'université.
Voilà, et en passant, ils verront les travaux de la grande bibliothèque qui va changer de nom, là, à partir on va dire dans un an, allez, dans un an. Voilà, l'Iliade, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine visite dans le cadre des journées de la science, hein, pourquoi pas.
Sans doute, ça va être un espace magnifique d'après ce qu'on voit sur les projets.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens s'ils veulent profiter au mieux? Est-ce qu'ils préparent des questions à vous poser? Est-ce qu'ils amènent leur fils pour dire il a envie de faire des études, comment on peut l'orienter, vers quelle discipline?
Alors vraiment, tout est permis, c'est très interactif, on peut voir des questions qui fusent dans tous les sens, des jeunes, des parents, etc. Bon, la première question des jeunes, c'est comment on fabrique un sabre laser. Donc, on est vraiment ouvert à tout, on est là pour discuter et pour expliquer avec des mots simples ce qu'on fait.
Comment on fait la part des choses entre ce qu'ils voient, par exemple, à la télévision, dans des films ou sur Internet, et la réalité scientifique?
Alors, bien sûr, les médias jouent un rôle très important dans la vie des jeunes et dans les vocations qu'ils suivent. C'est pas toujours la réalité scientifique, comme vous le dites. Je pense que c'est déjà important de susciter ces vocations. Je discutais avec un collègue d'une université anglaise l'autre jour qui me disait que depuis qu'il y a toutes ces séries sur la police scientifique à la télé, leur nombre d'étudiants a quadruplé pour ce genre de sciences, pour les forensic sciences. Mm-hmm.
Quels sont les grands domaines de recherche qui nécessitent des étudiants nouveaux, hein, des chercheurs aussi nouveaux, des vocations nouvelles ?
Je pense que toutes les sciences, tous les domaines de la recherche nécessitent cette relève permanente. La connaissance évolue en permanence et on a toujours besoin de jeunes pour reprendre ces connaissances-là et les porter plus loin et les transmettre à leur tour aux autres.
Donc c'est vrai qu'il existe des dispositifs pour sensibiliser les jeunes à la science, à l'intérêt de la science, voire au plaisir de la science.
Oui, si je peux citer la composante dont je fais partie, l'UFR de physique, nous organisons une action qui s'appelle la physique itinérante, où à peu près une fois par mois, 2 jours de suite, jeudi et vendredi, on va dans des établissements de la région, collèges et lycées, avec des petites expériences amusantes et ludiques, mais où il y a quand même une base scientifique qu'on essaye d'expliquer aux étudiants. Ça peut aller de comment vole un avion jusqu'à l'azote liquide, jusqu'à la théorie des bulles de savon, ça peut être jusqu'au détecteur de particules nucléaires.
Donc, tant qu'à aller sur Internet, on peut conseiller aussi aux élèves, aux parents, au grand public d'aller sur le site de l'université. On peut retrouver des expériences qui sont présentées par l'intermédiaire du service audiovisuel.
Tout à fait. Il y a des collègues qui font un travail extraordinaire sur ça, c'est le SEM. Et donc on peut retrouver en ligne des documents visuels accompagnés aussi de l'explication par le texte avec des équations. On peut aller assez loin dans la compréhension de ces choses-là.
Voilà, et là en l'occurrence tout est vrai sinon réel.
Oui, c'est une bonne question.
Voilà, Florence Yena, on va donc revenir, hein, puisque vous êtes chargée de la médiation scientifique sur cette grande semaine qui a commencé et qui se poursuit, peut-être en donnant quelques petits points de repère en guise de conclusion. Des points de rendez-vous et puis peut-être
oui,
aussi...
Donc effectivement, en tout cas sur le village des sciences de la métropole qui se situera à Lille 3, le public peut venir de préférence samedi et dimanche où ce sera une visite libre. Et ensuite, effectivement, les points de rendez-vous sont variés au CNRS, à l'Institut Pasteur, des sites aussi du CHRU. Enfin, c'est vraiment toute la métropole et toute la région qui se met à fêter la science. Et si je peux aussi ajouter que, selon moi, pour le grand public et le citoyen, c'est intéressant de venir rencontrer des chercheurs dans une ambiance un peu informelle. Parce qu'effectivement, vu les retombées aussi de la science sur notre société, tant au point de vue culturel et autre, je pense que c'est un moyen aussi de faire rapprocher deux mondes qui sont peut-être éloignés, qui se comprennent pas toujours. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur le monde de la recherche, comment ça se passe, les applications, etc., n'hésitez pas à venir à ces rendez-vous-là.
Voilà, et on peut également dire que si le public vient à Lille demain et après-demain, eh bien, il peut en profiter pour visiter à l'espace culture une installation qui s'appelle Antidote, qui est très intéressante, qui est une création d'Olivier Périquet, qui est un artiste chargé de mission à la recherche au Frénois, sachant que le Frénois, Studio National des Arts Contemporains, n'est pas isolé, et notamment a comme partenaire Lille 1. Peut-être vous êtes au courant de ce partenariat avec le Frénois, donc Christian Foxa?
Non, malheureusement, non, je ne suis pas au courant de ça et je n'ai pas encore visité l'exposition de l'espace culture.
Ouais. Mais disons que l'université et sa recherche peut amener des solutions à des artistes qui ont des projets complexes.
Tout à fait, on a eu ce genre d'action d'ailleurs qui s'appelait Physique et Art,
oui,
ça continue, on a des associations au niveau de l'UFR de physique, au niveau de la Société française de physique, etc., qui s'occupent de ce genre de choses. Nos actions suscitent d'habitude la présence de beaucoup de public. Si on peut se rappeler de l'action qu'on avait organisée en centre-ville de Lille il y a 4 ans pour les 50 ans du laser, on avait plus de 8000 visiteurs sur un week-end. Donc je pense que le public est intéressé par tous ces aspects-là, à la fois de la science et de l'art.
Voilà, bien, en tout cas, il ne me reste plus, Florent Sienna et Christian Foxa, de vous remercier, qu'à vous remercier, et puis aussi à appeler le public à venir nombreux et à partager avec vous ses réflexions, peut-être aussi ses demandes et ses questionnements quant à la science contemporaine.
Merci beaucoup,
merci
et bonne soirée.
Vous.